1er décembre 1983 à Saint-Joseph.
Vous disiez au cours précédent qu'il n'y a pas de connaissance affective, ni de l'être, ni du devenir. Justement, n'est-ce pas toute notre affectivité, aussi bien instinctive que personnelle, qui nous empêche d'avoir un regard plus pénétrant sur la réalité? Oui, je vous disais donc qu'il n'y a pas de connaissance affective de l'être, de la substance, du devenir. On pourrait discuter, hein. Je ne sais pas si je mettais le devenir aussi, mais c'est parce que le devenir, on pourrait dire qu'il y a une connaissance affective du devenir par le point de vue de l'intériorité même d'un amour dans son désir. Vous voyez ? Alors, si j'ai dit ni du devenir, il faut peut-être mettre uniquement de l'être. Il n'y a pas de connaissance affective de l'être, ça c'est sûr. Mais du devenir, on peut discuter, parce qu'il y a une connaissance interne. Connaissance affective, c'est une connaissance interne de la propre passion, ce que nous allons voir. Les passions sont essentiellement dans un fluxus, dans un devenir. La passion ne nous fait pas atteindre maître, mais la passion, elle est dans un devenir. C'est le propre des passions. C'est pour ça que les passions nous font comprendre ce que c'est que le tragique. Nous font comprendre le tragique, la tension. Toutes les tensions affectives, c'est le domaine des passions. Et donc là, il y a une connaissance affective, interne, du devenir. Vous voyez ? Mais il n'y a pas de connaissance affective de l'ousia, donc de la substance, ni de l'être. Tandis que vous avez une connaissance affective de l'âme. Je crois que c'est à cause de ça que j'avais posé cette question. Il y a une connaissance affective de l'âme, c'est que je peux connaître intérieurement mon intériorité. Je peux, par une attitude réflexive, comprendre qu'il y a en moi le point de vue extérieur, les apparences. Je me regarde dans la glace. Et puis le regard intérieur que j'ai quand je médite. Donc il y a deux regards. Quand je me regarde dans la glace, je ne vois pas mon âme. C'est bien évident. Je ne vois que mon corps et les apparences. Tandis que quand je me regarde intérieurement, je ne vois plus mon corps. Et j'essaie de comprendre ce qu'il y a de plus profond en moi. Et quand mon affectivité est très intense, je saisis quelque chose de très profond. Je saisis mon intériorité. Et mon intériorité, en définitive, c'est bien mon âme. Alors évidemment, il y a une intériorité qui peut être encore assez superficielle, et une intériorité qui peut aller très loin. Le puits est profond, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est quand je touche un amour très profond, très grand, très, très lumineux qui est en moi. Alors je vois cette intériorité profonde qui, d'une certaine manière, est abyssale. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans mon intériorité. Je ne touche jamais le fond. Je touche les apparences. Je peux toucher certaines choses, mais le fond, je ne le touche pas. Il y a une intériorité fondamentale qui m'échappe, qui est au-delà de tout ce que je peux saisir. Donc, c'est uniquement ça. Vous voyez, comprendre bien qu'il n'y a pas de connaissance affective de l'être, mais une connaissance affective du devenir par le point de vue passionnel. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le domaine des passions, c'est justement un domaine de connaissance affective interne. Je peux connaître les passions de deux manières. Ici, il faudrait prendre, je n'ai pas ici, mais c'est une chose que je vous lirai peut-être une fois, parce que c'est dans Sénèque, le De Ira de Sénèque. Il faut avoir lu dans sa vie le De Ira de Sénèque. Ça se lit très facilement, du reste. Hein. Et pensez à toutes les colères des pions qu'on a rencontrés sur la terre. Hein. Les colères des pions. C'est extraordinaire. Ça. Et puis les colères, tout simplement. Des hommes sérieux qui se mettent en colère tout d'un coup. Et alors Sénèque donne une description de la colère de l'homme, en montrant que quand l'homme est en colère, il sort de ses gonds et fait des choses qui sont complètement disgracieuses. C'est pour ça que c'est toujours très curieux de regarder de l'extérieur un homme qui se met en colère. Et plus cet homme est respectable, plus c'est drôle de le regarder en colère. Mais il faut faire attention, hein, il ne faut pas rire en face de lui, parce qu'alors vous augmentez sa colère. Surtout pas. Mais c'est quand même une expérience. Qu'est-ce que ça fait? Un homme respectable, tout d'un coup, soupolé, ça sort comme ça. C'est, j'ai déjà dit, cette réflexion, c'était à Genève, un petit gosse, c'est une mère qui m'a raconté ça, c'est ce petit gosse de 4 ans, il était assis sur un canapé, et sa mère lui donne un ordre, fais ceci, elle était en colère, je la connaissais bien, du reste, elle était constamment en état de colère. Mais le gosse reste, puis maman, quand tu me le diras autrement, je le ferai. Il avait très bien compris, le gosse, qu'on ne donne pas de commandement et d'impérium quand on est en colère. Parce que l'impérium, le commandement, n'est pas le fruit de la colère, c'est le fruit de l'intelligence. Ce gosse à 4 ans avait compris ça. Pas explicitement, on l'aurait pas demandé. Mais il avait compris que quand sa mère était en colère, elle n'avait plus d'autorité. Et c'est vrai, quelqu'un qui est en colère n'a plus d'autorité. Il est en colère. Alors il y a des colères saintes qui, elles, sont là pour affermir l'autorité. C'est le propre de la colère sainte. Mais la colère passionnelle, c'est quand justement il y a un dépassement. Alors l'intelligence est obnubilée à ce moment-là par la colère. Et on n'a plus aucune autorité. C'est pour ça que c'est si curieux et c'est si risible. Alors, il faut lire le Deïra de Sénèque. Hein. Les stoïciens ont horreur des passions. Et parce qu'ils ont horreur des passions, ils voient que les passions, c'est la partie animale qui est en nous. On est comme les animaux. Et on peut regarder à travers les animaux les diverses passions. Ça, c'est très vrai. Parce que les animaux ont des passions qui se développent diversement selon les divers animaux. Et alors, à ce moment-là, vous voyez en gros ce que d'habitude en l'homme, vous voyez en petit. Passion des animaux, c'est assez remarquable. Ça fait pas rire. C'est très curieux. Quand l'homme se met en colère, ça fait rire. Et quand un animal est en colère, ça ne fait pas rire du tout. Ou vous admirez. Vous êtes en face de quelque chose d'étonnant. Ou vous avez très peur. Un taureau en colère. Oh là là. C'est pas drôle du tout. On n'a pas envie de rire. Ou un gros chien en colère. Pas envie du tout de rire. Vous voyez, parce que le taureau et le chien n'ont pas d'autorité. Qu'ils soient en colère, c'est après tout la manifestation la plus magnifique de l'animal. C'est l'animal en colère, il est parfaitement animal. Il est à son sommet comme animal. Pas sa finalité, mais à son sommet. C'est l'animal qui s'épanouit parfaitement à ce moment-là. Les colères, c'est la partie animale de nous. Par où nous sommes en communion avec l'animal, par où il y a des ressemblances avec l'animal. Mais la différence, c'est que l'homme doit dominer ses colères et que l'animal peut se laisser aller aux colères. Et que l'homme peut aller plus loin dans les colères à cause de l'imaginaire. Alors l'imagination chez les animaux est moins grande que chez l'homme. Ça, c'est très curieux aussi. On verra ça avec l'imagination. C'est l'imagination est quelque chose de très très important à ce point de vue-là. Parce que l'imagination chez l'homme, c'est, je crois, chez l'homme où l'imagination a quelque chose de particulièrement important et qui est très très développé. Plus que chez l'animal. Parce que l'animal, l'instinct est plus développé. Alors les passions sont ordonnées à l'instinct. Bien qu'il y ait chez l'animal, je crois que la colère chez l'animal dépasse l'instinct. Mais ça, c'est très délicat. Et ce serait intéressant à voir. Je crois. que la passion colère chez certains animaux dépasse leur instinct. Je crois qu'un animal peut être en colère au-delà de l'instinct. Ce qui ferait dire, vous voyez, à saint Thomas, quand il dit que la passion colère, c'est la passion la plus noble. Et c'est la passion qui est la plus proche de l'intelligence. Alors, ce qui ferait comprendre comment chez l'animal, il peut y avoir un certain dépassement de la colère au-delà de son estimative, au-delà de son instinct. Alors que les autres passions, ordinairement, sont ordonnées aux instincts. Mais ça, c'est une question pour nous approcher de ce que c'est que le point de vue de la passion. Alors, on va entrer maintenant dans le point de vue de la passion. Qu'est-ce que c'est que cette affectivité qui est l'activité passionnelle? Alors, je crois que la première chose qu'on doit faire, c'est non pas regarder les passions chez les autres. On peut le faire. Regarder les passions chez les animaux. On peut le faire. Vous pouvez donner une description d'un état affectif de votre ami. Parce que c'est chez l'ami qu'on le connaît le mieux. Alors, l'état affectif dépressif, de tristesse. L'état affectif d'exaltation, merveilleux, extraordinaire. Vous avez donné un bon beefsteak, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Il est dans un état euphorique. Vous pouvez décrire de l'extérieur, mais vous n'analysez pas. Ce qu'on doit faire, et c'est la première chose, je crois, qu'on doit faire, au point de vue philosophique, c'est d'essayer de décrire en nous tous nos états affectifs. Et d'essayer de comprendre tous nos états affectifs. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Puis à partir de là, on va analyser ce que représentent ces états affectifs. Il y a un état affectif facile à comprendre, parce que c'est l'état affectif fondamental, c'est l'état affectif de l'amour. L'amour-passion, c'est la passion la plus connue. L'amour-passion. Qu'est-ce que c'est que l'amour-passion? Et c'est vrai que c'est l'état affectif le plus commun. On va, d'une certaine manière, on pourrait dire que tous les états affectifs sont des modulations de la passion. Et ça, ce serait intéressant à découvrir. Vous voyez, il peut y avoir, par exemple, le désir. Le désir, c'est une modulation de la passion. C'est une passion qui n'est pas assouvie. Alors, j'en veux plus. C'est évident, on vous sert quelque chose de bon, particulièrement bon. Alors, c'était en Belgique, je me souviens, toujours, quand on allait pendant chez les Flamands, alors on nous servait comme ça, les braves dames avaient remarqué qu'on allait dans la campagne se travailler le matin, puis alors à 10h, sur le coup de 10h, on nous apportait du café comme ça. Alors, ça goûte, père, ça goûte. Oui, c'était j'entends encore le brave flamand disant ça. Alors, on vous apporte quelque chose qui vous aide. C'est bon. Puis, on vous demande, est-ce que vous en voulez encore? Il dit oui. Et puis, on vous le refuse. Donc, on vous a excité. On a mis un désir. On a mis un désir. Hein. C'est assez sûr. C'est le désir. Quand, au contraire, il n'y a plus de désir, il y a une jouissance. Ça, je peux tout de suite saisir ces points de vue-là. Ça vient d'où, ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? D'où proviennent ces choses-là? C'est vous? Vous voyez la source passionnelle, hein? C'est quoi?
Les interférences.
Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Hein? Okay. Les gens devront étudier ça. C'est un désagréable. Même quand je me tais, les gens ont dit. Alors ça provient d'où ça?
Les C'est
circuit électrique. Je constate. Ça provient de quoi? Oui. Oui, parce que c'est quelque chose qui ne marche pas, ça. D'où ça provient de quoi, ça? Vous voyez l'explication? Oui, mais comment se fait-il quand je me tais que ça continue? C'est ça. Quoi? Ah, qui continue de marcher. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme son? Qu'est-ce qu'il y a? Vous entendez quoi, par exemple? C'est merveilleux, ça. Il y a un fond sonore. Alors ça peut revenir quand même de quelque chose. Il y a quelque chose qui marche pas. Maintenant, c'est le silence. Mais ça continue. Bon. Alors, la passion amoureuse prend cette motivation du désir, quand de fait, le désir n'est pas assouvi. Lorsque je m'arrête, le repos dans le bien désiré. Ça, on va analyser ça tout à l'heure. Simplement, maintenant, j'étudie les états affectifs dans lesquels je peux me trouver. Et je sens bien qu'il y a en moi l'état affectif d'amour qui est quelque chose de fondamental, quelque chose d'indéterminé, de déterminé comme amour, mais qui prend des modulations différentes dans le désir et la jouissance. Et puis, il peut y avoir juste l'inverse, la haine passion, la haine affective. Par-dessus la tête. Vous savez, alors à la fin, on veut détruire. Hein? On veut détruire. C'est quelque chose de juste l'inverse de l'amour. Mais quelquefois, on passe de l'amour à la haine. Hein? Ce que disent les psychologues, il y a quelque chose de juste. On peut très bien passer de l'amour à la haine. Il y a une espèce d'ambivalence. Ça, il faut bien étudier ça, c'est très important au point de vue affectif. De bien étudier ce passage de l'amour à la haine, parce que la haine, c'est justement le fait d'une opposition. Tenace. On va étudier ensuite. Il y a la fuite. La fuite. La fuite affective. Hein? Pas la fuite nécessairement réelle et efficace. Une fuite affective. Je veux me mettre le plus loin possible de ce qui m'agace. Alors je me mets le plus loin possible de ce qui m'agace. Parce que ce qui m'agace risque toujours de me conduire justement à une espèce de haine. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, la tristesse. C'est fini. C'est cassé. Ressort est cassé. Et je suis dans un état de tristesse. Quand je suis dans un état de jouissance, ça, c'est des états affectifs. On peut tous sentir ça en soi. Il y en a d'autres. Il y a des états affectifs très différents de ceux-là. Qui sont, par exemple, l'audace. Ah, vous voyez, c'est lié au désir. Il y a l'audace. Il peut y avoir aussi la crainte. Un état affectif de crainte. J'ai peur. Il y a un état affectif de désespoir, d'espoir, d'espérance. Et désespoir. Et puis la colère. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si, en prenant ces 11 états affectifs, c'est-à-dire les 10 modalités de l'amour, il y a l'amour et 10 modalités dont l'amour se donne. C'est beau, tu restes, hein? 10 modalités, 10 manières dont l'amour affectif et passionnel peut exister en moi. Il faudrait savoir si vraiment ces 11 états affectifs, je vous donne ceux-ci, sont bien connus, sont détectés, ceux-là. Saint Thomas les a détectés. détecter tous ces états affectifs. Alors, est-ce que de fait, il y en a d'autres? Posez-vous la question. Ah, il peut y avoir des choses complexes, et en même temps. Mais est-ce que vraiment, en donnant ces 11 états affectifs, j'ai tous les états affectifs? Ça, c'est très intéressant à se poser la question. Et on doit s'imposer au point de vue philosophique. Est-ce que depuis Saint-Thomas, on a découvert d'autres états affectifs? Est-ce que les psychologues d'aujourd'hui ont découvert d'autres états affectifs? J'ai fait cette analyse devant des psychanalystes à Paris. Ils ont été très étonnés que Saint-Thomas en ait connu tant. Parce que pour eux, vous savez, c'est assez simple, les états affectifs. Hein, le concupiscible et l'irascible, c'est tout. Hein. C'est l'état, l'amour oblatif et l'amour captatif. Et alors, l'amour captatif, hein, tout ça est un amour captatif. Tous. C'est un amour captatif. L'amour oblatif, c'est autre chose. C'est un amour spirituel. Tandis que toutes les passions sont captatives. C'est propre des passions. Parce qu'elles ramènent tous à nous. C'est toujours nous qui sommes en cause. Alors, évidemment, on comprend bien, c'est une analyse que nous faisons de notre vie. Hein. C'est une analyse que nous faisons de notre vie, exactement comme dans la sensation. Quand on a analysé la sensation n'existe jamais, elle est impure. Mais je peux détecter la sensation de froid, la sensation de chaud. Je peux détecter la couleur, je peux détecter la vision de lumière, je peux détecter ça. Mais je sais que c'est toujours lié à des tas de choses. Eh bien, ici, c'est la même chose. Ces états affectifs passionnels sont toujours captatifs. Et la passion n'est pas mauvaise parce qu'elle est captative. C'est tout simplement le vivant qui se défend. Parce qu'il a besoin de ramener à lui le bien sensible. Le bien sensible, il le capte. Parce que le bien sensible demande d'être capté. Je ne peux pas avoir un amour oblatif pour le bien sensible. Quand vous offrez au Seigneur ce bon vin, alors c'est ce vin merveilleux, je l'offre. Un amour oblatif pour le vin. Mais non, quoi. Vous aimez le vin pour vous, pas pour le vin. Vous aimez le chocolat pour vous, pas pour le chocolat. N'est-ce pas? Alors à ce moment-là, ce sera un amour oblatif pour le chocolat. Ce chocolat est tellement merveilleux que je le regarde. Mais non, il est merveilleux quand je mange. Et il est merveilleux uniquement à ce moment-là. À ce moment-là, il est merveilleux. Mais quand je le regarde, il excite mon désir, mais il n'est pas merveilleux du tout. Il peut même être très agaçant. Et il est bon le moment où justement je le capte, où je m'en nourris. Vous voyez, tout amour sens, tout bien sensible demande un amour captatif. Donc, nous sommes en présence des diverses modalités de l'amour. L'amour est désir, l'amour est jouissance, l'amour est tristesse, l'amour est fuite, l'amour est haine, l'amour est audace, l'amour est crainte, l'amour est désespoir, l'amour est espérance, l'amour est colère. Et ça, c'est très très étonnant de voir que l'amour a 10 modalités. Ça, ce serait très intéressant à étudier. On va essayer de le faire, parce que c'est toute une philosophie, vous voyez, au niveau passionnel de l'amour. C'est au niveau passionnel que je comprends le mieux ce que c'est que l'amour. C'est comme au niveau sensation que je découvre le mieux le point de départ de ma connaissance. Alors, c'est intéressant de saisir les modalités de l'amour au niveau proprement passionnel. Qu'est-ce que c'est d'abord que l'amour affectif, passionnel? Qu'est-ce que c'est que la passion? Je constate ces états. Et je constate que ces états restent des états dont j'ai conscience. Je peux avoir conscience de ces états. Je peux les analyser. Je vais essayer d'analyser maintenant qu'est-ce que c'est que la passion. Et puis après, on essaiera d'étudier les 10 modalités de l'amour. Essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente, ces 10 modalités de l'amour. Comment l'amour, 10 modalités, oui. Comme il y a les 10 prédicaments de l'être, il y a les 10 modalités de l'amour. Alors, est-ce que de fait, il y a des parallélismes entre les deux? Mais il y a 10 modalités de l'amour. Alors, il faut faut essayer de comprendre ça, saisir ça. Alors qu'est-ce que c'est que l'état affectif ? Un état affectif, un état passionnel, c'est donc, j'en ai conscience, il y a une connaissance, puisqu'il y a conscience, une connaissance qui peut être imaginative. La passion peut naître uniquement au niveau de l'imagination. C'est très vrai. Je peux m'imaginer être en présence de chocolat et me mettre à les aimer. C'est sûr, c'est évident au point de vue imagination. Mais la passion a quand même un point de départ toujours réaliste. L'imagination peut remplacer la connaissance, mais au point de départ, c'est un bien sensible. Il y a un bien sensible qui existe. Mais la passion peut se nourrir de l'imaginatif. C'est très important parce que c'est ça qui permet de comprendre les transferts. Si la passion ne se nourrissait pas de bien imaginatif, il n'y aurait pas de transfert. Il faut expliquer comment, de fait, il peut y avoir un transfert. Et ça, c'est parce que la passion porte sur un bien sensible qui existe ou qui n'existe pas. Que vous vous représentez, et c'est suffisant pour exciter la passion. Donc la passion est au niveau intentionnel et pas au niveau existentiel. En premier lieu, la passion, dans ce qu'elle a de tout à fait fort, reste quelque chose d'immanent. Je ne suis pas réaliste par mes passions. Ça, c'est très important de comprendre ça. Les passions mêmes, très facilement, me font m'évader du réel. Parce que les passions demeurent au niveau intentionnel. Quand je dis intentionnel, vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire quelque chose que je saisis au-dedans de moi-même, mais qui n'est pas réel. Réel au sens absolu. C'est réel l'état affectif, mais c'est d'une réalité seconde, c'est-à-dire d'une réalité intentionnelle. Ce n'est pas une réalité absolue. C'est une réalité seconde que je porte en moi. Alors quand je la porte en moi, c'est réel, c'est bien évident. Quand je suis affecté de tristesse, je suis affecté de tristesse. Si quelqu'un vient me dire « Ah, oh, c'est purement imaginatif », on va les reprendre. On va dire « Si vous me subissez, vous verrez ce que c'est. Je suis triste, je suis vraiment triste. Je suis triste, peut-être dans un état passionnel, c'est très possible. Mais je suis triste, je suis affecté par cette tristesse. Et je porte ce poids de la tristesse. » Et ce poids de la tristesse est donc quelque chose qui m'afflige. Mais c'est affectif, c'est intentionnel, c'est pas le réel tout court. Et c'est pour ça qu'on dira à ce moment-là, remettez-vous dans le réel pour corriger vos passions. Parce que les passions, comment peuvent-elles se corriger ? La passion appelle la passion par l'imaginaire. Et ce ne sera qu'en dépassant la passion qu'on pourra corriger la passion. Mais quand la passion est trop intense, la passion s'impose d'une manière telle que je n'arrive plus à la dépasser. Et c'est pour ça que la passion peut me faire perdre la tête. Je n'arrive plus à rejoindre le réel. Et je crois que tout ce que je vis intentionnellement, c'est le réel. C'est très important ça, l'état affectif, imaginatif qui peut devenir tel que je perds le contact avec le réel. Je suis pris par cette intentionnalité. Cette intentionnalité affective, liée à l'imaginaire, qui ne me fait pas directement contact avec le réel. La passion ne me fait pas directement contact avec le réel. La passion n'exige pas pour exister le jugement d'existence. Ah ça c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que la passion est d'ordre intentionnel et qu'elle est subjective. Elle est intentionnelle et subjective. Elle est réelle quant à l'aspect subjectif. Mais elle n'est pas réelle quant à l'aspect objectif. Je peux faire mousser la passion, imaginativement. Et on le sait, ça. C'est tout le système de propagande. toutes les propagandes font mousser les passions. Ils connaissent les passions pour les faire mousser, pour empêcher de regarder le réel. Et quand vous êtes pris par les passions, au bout d'un certain temps, vous n'arrivez plus à rejoindre le réel. Ça doit être comme ça parce que la propagande l'a dit. Parce que je l'ai vu dans des images et des représentations, c'était comme ça. On arrive à des choses très étonnantes comme ça, par le point de vue imaginatif. Mais c'est là où on peut arriver à mettre quelqu'un dans une espèce de coton et il est entièrement chloroformé, psychologiquement. Il est pris par son état passionnel, imaginatif. Dès que vous rejoignez le réel, alors c'est là la grosse question, ça c'est une question qui est en dehors du point de vue de la philosophie du vivant. Dès que vous pouvez rejoindre le réel, votre passion se relativise. Et la passion se relativise par les deux extrêmes, par l'amour spirituel et par la réalité tout court que vous touchez, par le travail. Le travail vous donne le contact avec le réel. Ça, c'est sûr. Vous vous coupez le doigt. Ah, ça vous fait sortir de l'imaginaire, ça. Parce que le sang coule. Alors, vous coupez le doigt. Alors, ça, c'est quelque chose qui fait que vous retrouvez le réel. Vous voyez ? Ou bien, spirituellement, vous êtes en état d'adoration vis-à-vis de Dieu, mais il faut que le spirituel soit très fort. Et ça, c'est pas tout de suite, hein. C'est pour ça que quand on est pris par le point de vue passionnel, ordinairement, c'est le travail manuel qui nous remet sur les pieds. Sauf si on a l'intelligence suffisamment développée qui nous remet au-dessus. Ou bien l'aspect spirituel suffisamment développé qui nous permet de rejoindre Dieu dans l'adoration. C'est très important de comprendre ça. Parce que ça relativise. Parce que la passion en elle-même apparaît comme un absolu. Puisqu'elle est purement immanente dans l'état du sujet. Le sujet est pris, il est entièrement pris, c'est-à-dire on est chloroformé par le point de vue passionnel. Et quand on est manœuvré par la passion, on est vraiment manœuvré par la passion, on ne sait plus où on va. Et on ne peut plus à ce moment-là détecter ce qui est état passionnel et ce qui est réel. Alors on tombe dans les hallucinations. Les hallucinations sont toujours passionnelles. Et les hallucinations, c'est toujours l'état affectif lié à l'imaginatif qui nous met dans un état, on ne sait plus. On croit que c'est le réel et c'est la confusion entre l'intentionnel et le réel. Et philosophiquement, on peut très bien le saisir, ça. Tant que vous faites la distinction entre le réel et votre état affectif, il n'y a pas de danger. Mais il y a un moment donné où vous perdez pédale. Et alors, votre état affectif et le réel, vous ne voyez plus. À ce moment-là, attention, signal d'alarme. Parce que ça devient dangereux. Vous n'arrivez plus à distinguer la réalité de votre état affectif. Et c'est votre état affectif qui vous manœuvre. Je ne peux pas faire autrement. Mais oui, vous pouvez faire autrement. Non, je ne peux pas faire autrement. Je suis téléguidé. Mais c'est votre état affectif qui vous téléguide, qui vous pousse. Alors c'est à ce moment-là, votre état affectif vous empêche de distinguer l'état affectif du réel. Ça, on peut tous faire cette petite expérience, on l'a tous faite à un moment donné dans notre vie. Heureusement, du reste, parce que ça permet de la saisir pour les autres. Et ça permet de soi-même de dépasser l'état affectif dans lequel on est pour comprendre que cet état affectif, il est immanent. C'est l'immanent que ça va. L'immanence de Bombay, cette espèce d'état affectif dans lequel on est, et on croit que c'est le réel. Et non, c'est purement subjectif. Mais c'est réel du côté subjectif, c'est pas réel du côté objectif. Bon, donc la passion, c'est quelque chose de quand même très curieux. C'est cette espèce de chose extraordinaire, c'est la mousse. C'est quelque chose qui mousse, qui monte. Et qui monte de manière telle qu'on est pris, on est saisi. Alors on est plus ou moins porté vers ces états affectifs et passionnels, suivant que notre sensibilité plus ou moins aiguisée, suivant que notre état affectif est plus ou moins fort et suivant que notre imagination est plus ou moins prise. Cet état affectif, passionnel, donc est immanent. Il est donc téléguidé par l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui commande en premier lieu nos passions. Ce n'est pas nos sensations. C'est l'imaginaire, la représentation. Toutes les passions sont dans l'ordre de la représentation. Alors, au point de vue spirituel, on verrait que toutes les tentations sont au niveau imaginaire. Toutes les tentations, du moins la plupart des tentations, pour un être vertueux, nous ne sommes pas enfants, donc pour un être vertueux, on peut dire que toutes les tentations sont au niveau imaginaire. Parce que quand on est devant la réalité, on a une réaction saine. Tandis qu'on est pris par l'imaginaire. Mais c'est la consolation qu'on peut se dire, si on est pris par l'imaginaire, ça prouve qu'on est un être vertueux. Elle ne dit pas ça parce que ce n'est pas toujours vrai. Mais c'est vrai que c'est, les tentations, la plupart du temps, sont au niveau de la représentation. Le démon, alors au plan spirituel, si je quitte la philosophie du vivant, le démon, c'est le prince de l'imaginaire. Parce qu'il sait parfaitement toutes les connexions de l'imaginaire et des passions. Il les connaît parfaitement. Un psychanalyste parfait connaîtrait toutes les connexions entre l'imaginaire et les passions. Il les connaîtrait parfaitement. Seul le démon les connaît parfaitement. C'est pour ça que c'est le psychanalyste parfait. Parce qu'il connaît ça parfaitement. Tandis que nous courons après. Nous ne les connaissons pas parfaitement. Nous connaissons quelques connexions, mais nous ne les connaissons pas toutes. Et si on les connaissait toutes, mais on serait victorieux. On les connaîtrait, on pourrait les relativiser. Or, de fait, on ne les connaît pas toutes. Alors, il y a des jeux multiples et divers qui nous prennent et qui se fait quand on est devant, on n'arrive plus toujours à les saisir. Alors, cet état affectif est commandé par l'imaginaire. Par la représentation de l'imagination. Cet état affectif est un état affectif qui porte sur un bien sensible apparent, puisqu'il est imaginaire. Un bien sensible apparent. Ce n'est pas le bien sensible immédiat, réel. C'est le bien sensible apparent. Imaginatif. Et ce bien sensible, apparent, m'attire. Alors, c'est là où il faudrait étudier ce qu'est cette passion fondamentale qui est l'amour passionnel. L'amour passionnel n'est pas premièrement extatique, à la différence de l'amour spirituel. C'est un amour qui me connaturalise avec le bien sensible. Et je dirais qu'au niveau passion, l'amour apparaît en premier lieu comme une connaturalité à l'égard du bien sensible. Tandis que lorsqu'on étudiera l'amour spirituel, je le dis tout de suite pour qu'on comprenne mieux, on dira que l'amour est premièrement extatique. C'est-à-dire que l'amour spirituel me fait sortir de moi vers la personne aimée. Parce que l'amour spirituel me fait porter sur un amour qui, sur un bien qui me dépasse. Alors que la passion, amour, me fait porter sur un bien apparent. Qui m'est donné dans une représentation. Et donc l'amour passionnel implique cette connaturalité. Je suis saisi, je suis pris, et je suis en connaturalité avec ce bien apparent. Je crois que c'est la connaturalité dans l'affectivité. C'est une connaissance qui fait que ce bien me prolonge. Et je suis en union avec lui, en union affective, en union passionnelle. La connaturalité implique l'union, implique la similitude, implique le désir qu'on a d'être de plus en plus en union avec lui. C'est cela le propre de cet amour passionnel. Cet amour passionnel a un désir de possession, toujours. Et ceci caractérise l'amour passionnel. Il a un désir de possession. C'est dans l'ordre de l'avoir. Parce que ce bien sensible peut m'échapper. C'est en ce sens-là que ce bien, que la passion a toujours une fébrilité. Elle est fébrile, la passion. Elle n'a pas de repos. Il y a un certain repos quand je le possède, mais comme il peut toujours m'échapper, même dans la jouissance, il y a encore une fébrilité. C'est très curieux. Alors je veux faire des bouchées doubles. C'est le propre de la passion. Et c'est en ce sens-là que la passion maintient dans une fébrilité. Il n'y a pas de repos dans la passion. Il n'y a jamais de repos total. Un avoir fébrile, parce que c'est un avoir qu'on ne peut pas posséder pleinement. Donc on le ramène à soi et on veut l'avoir pour soi. C'est, je crois, les notes particulières de l'amour passionnel. Cet amour qui porte sur un bien, qui porte sur le bien sensible, sur un bien sensible, sur un bien sensible qui m'est représenté, cet amour pourra prendre une note de fébrilité très particulière dans le désir. Le désir, c'est un amour fébrile, parce que je tends vers ce bien qui m'échappe. Je tends vers ce bien et je voudrais l'avoir et je ne le possède pas. Il m'échappe. Alors vous voyez, là, il y a quelque chose de particulier. C'est là où on voit comment la passion, tout en étant dans l'immanence quand il s'agit de l'amour, quand il s'agit du désir, il y a dans le désir un certain réalisme, puisqu'on veut posséder. On veut avoir ce bien. Alors, il nous est donné affectivement, mais on veut plus. On veut plus. On veut qu'il y ait vraiment une union effective. Et pas seulement une union affective. L'union affective est donnée dans l'amour. Mais comme le bien sensible peut m'échapper, je ne l'ai pas toujours dans ma présence, il n'est pas toujours présent. Alors, le réalisme consiste à voir la présence et la non-présence. Ça, c'est du réalisme. L'amour passionnel, imaginatif, ne regarde pas la présence ou la non-présence. Mais l'amour passionnel qui regarde la présence ou la non-présence, c'est l'amour qui prend cette modalité particulière du désir et de la jouissance. Et alors, par le point de vue du désir et de la jouissance, on voit cette modalité de cet amour passionnel qui va regarder un certain réalisme. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Quand je disais tout à l'heure que la passion comme telle n'implique pas le réalisme, c'est juste. Et cependant, il faut ajouter que la passion humaine réclame le réalisme. Donc dans son exercice. Ça, on verra ça la fois prochaine.